Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 5 octobre 2023. Personnellement, je n'ai jamais passé la nuit dans une machine à laver le linge en cycle essorage. Mais si je devais imaginer ce que cela représente, je crois que ce que l'on vit dans les marchés depuis 10 jours doit être assez proche de ce genre d'expérience. On a le sentiment que l'on ne peut se raccrocher à rien. La moindre nouvelle est capable de nous faire croire que c'est inflationniste et que ça va pousser la Fed à monter encore les taux. Ou alors un autre chiffre publié qui est complètement à côté des attentes a le pouvoir de nous faire croire que l'emploi ralentit, que l'emploi va moins bien et que finalement la Fed ne fera rien. Et le tout en moins de 36 heures, bien sûr. Le plus dur, par contre, au milieu de tout ça, quand même, c'est de trouver le temps de se poser et d'essayer de se concentrer sur les faits, hein. D'arriver à tout mettre bout à bout pour essayer de se dessiner un vrai scénario. Sauf qu'il y a une telle avalanche d'infos qui veulent tout dire et rien dire, qui signifient tout ce qu'on veut, mais aussi son contraire, qu'il n'est pas simple de tenir le volant et de rouler à peu près en ligne droite. Là, tout de suite, je suis à deux doigts de retourner me mettre en PLS dans mon lit et d'attendre que ça passe. Alors bon, oui, bien sûr, j'exagère un peu, mais c'est aussi mon boulot de caricaturer ce qui se passe. Mais il faut tout de même admettre que ça n'est pas simple de garder le cap et d'investir sérieusement quand le mardi, on flippe à cause du rendement de 10 ans, un rendement dont on ne parlait même pas il y a encore 3 semaines parce qu'on était trop occupé par le discours de Powell après la Fed, et que le mercredi, on est soulagé parce que les chiffres de l'emploi ADP sont nettement, mais alors nettement en dessous des attentes du marché, et que ça veut dire que l'emploi va moins bien et que le plan de Powell pour lutter contre l'inflation se déroule comme prévu. Stop. Attendez. Stop. On fait juste une pause de 8 secondes. Donc, si j'ai bien compris, le S&P 500 a repris 0,81% et le Nasdaq récupérait 1,35% sous le fallacieux prétexte que les chiffres ADP sont sortis à 89 000 alors que les économistes attendaient 160 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Sérieusement, c'est pour ça que les marchés sont remontés. Donc je me permets d'aller plus loin. Si on part du principe que le ralentissement des créations d'emplois selon ADP est une bonne nouvelle qui permettra à Powell de ne pas monter les taux dans 3 semaines, que fait-on des chiffres des JOLTS qui démontraient pas plus tard que 24 heures avant les chiffres ADP que le nombre de postes vacants était en train d'exploser? Hein ? On en fait quoi ? Ceci nonobstant, bien sûr, que dans les deux cas, les experts se sont complètement vautrés sur leur prédiction boursière. Prédiction qui, soit dit en passant, se rapproche de plus en plus des techniques des joueurs de casino les plus désespérés qui se disent qu'en faisant n'importe quoi sur un malentendu, ça pourrait marcher. Donc hier, les marchés ont rebondi, mais pas partout. Les Européens n'ont pas eu le temps de tirer le bon grain des publications économiques américaines et l'ensemble des indices du vieux continent restaient bloqués sur le fait que les JOLTS de mardi étaient un peu trop bons et que le rendement du 10 ans américain était de tous les autres 10 ans aux quatre coins du monde était également trop élevé. Il est vrai que le 10 ans allemand était au plus haut depuis 2012, c'est d'ailleurs pareil pour toute l'Europe, sauf que pendant ce temps, les Américains avaient déjà commencé à prendre la pelote de laine par l'autre bout. Le rendement du 10 ans américain a fait un pic à 4,88 avant de faire un virage à 180 degrés et de retourner à 4,72, nous laissant d'ailleurs un candlestick de retournement assez spectaculaire pour les techniciens. Et tout ça parce que les chiffres de l'emploi ADP étaient nettement en dessous des attentes. Comme à chaque fois, il est absolument fascinant de voir qu'un chiffre dont on se fout totalement le reste de l'année, au point que dans certaines périodes de marché normales, on ne sait même pas qu'il a été publié, soudainement ce chiffre devient le centre du monde, non seulement parce qu'il est bas, mais qu'en plus il est nettement plus bas que les attentes des analystes. Analystes qui, je le rappelle, depuis la fin du Covid, ont tendance à être de plus en plus à côté de la plaque niveau prévision économique. N'oublions pas non plus que ce chiffre est également amené à être révisé le mois prochain, ce qui revient à dire que l'on a pris des décisions sur des chiffres qui sont faux, et on le sait déjà. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Ça va faire bondir le S&P pile poil sur son support, et du coup, on se dit qu'il y a à nouveau de l'espoir. Sait-on jamais ? Il suffirait que les non-farm payrolls de vendredi et que les jobless claims de cet après-midi soient plus faibles que les attentes, et pour que l'on soit convaincu que Powell ne montera plus jamais les taux. À partir de là, il ne restera plus qu'à espérer que les chiffres ne seront pas trop faibles, pour que cela nous mène à parler de récession. Non, parce que si l'économie ralentit, c'est bien, parce que l'inflation se calme. Mais si l'économie ralentit trop, c'est le risque de récession qui prendra le dessus. D'ailleurs, hier, on notera que les chiffres de l'ISM étaient aussi en mode coup de frein, sans compter que le pétrole s'est cassé la gueule et que ce matin, je n'ai jamais lu autant d'articles qui préviennent que la récession arrive, finalement. Mais que l'on se rassure, hein, Goldman Sachs pense toujours qu'il n'y a que 15% de chances qu'elle arrive vraiment. la récession. En conclusion de la séance d'hier et de celle d'avant-hier et peut-être même celle d'aujourd'hui, je crois que le titre de ma chronique d'aujourd'hui a été parfaitement choisi par mon comité de rédaction, c'est-à-dire moi-même personnellement tout seul. On veut la vue, la tête dans le guidon. Et j'ajouterais même qu'on doit être complètement bourré. Ce matin, on dirait qu'il y a comme une sorte de soulagement en Asie, de calme après la tempête. Les Chinois sont toujours en vacances, et Hong Kong remonte de 0,7% et le Japon repart à la hausse de 1,5%. Mais pour être franc, ce matin, on se fout pas mal des marchés. Le sujet du jour, c'est le pétrole. Hier, le baril s'est fait défoncer. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire le bain de sang que nous avons vécu sur l'or noir. La nouvelle est bonne parce que du coup, là, on va pouvoir en parler dans les prochains rapports sur l'inflation parce que ça va être plus facile pour le consommateur qui n'aura plus qu'à gérer la hausse de 270% sur le jus d'orange depuis 3 ans. Bon, en même temps, ça ne sert à rien de se précipiter à la station-service pour faire le plein. Dans l'hypothèse où le baril reste à 85 pendant les 34 prochaines semaines, on a une bonne chance de voir le litre baisser d'un centime. Parce que vous comprenez, les coûts de transport ont augmenté et les taxes aussi. C'est pas si simple la vie de pétrolier. D'ailleurs, Exxon estime que la hausse du baril de ces derniers temps devrait leur rapporter 1 milliard de profits supplémentaires pour le trimestre. Je sais bien qu'un milliard en comparaison de la dette du gouvernement US, c'est pas grand-chose, mais c'est un profit supplémentaire, ce qui veut dire qu'il y a encore d'autres trucs en plus. Mais revenons au baril. L'or noir s'est donc effondré parce que l'on a commencé à se dire que si le pétrole montait trop haut, le consommateur allait arrêter d'en acheter. Alors je sais pas comment le consommateur en question va faire pour arrêter d'en acheter, sachant qu'il y a du pétrole jusque dans les burgers de chez McDonald's. Bon, honnêtement, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, on doit en trouver. Rien que les bonnes sont, dirait, du plastique. Toujours est-il qu'hier, on s'est dit que rouler en voiture électrique, c'était pas mal, et que cet hiver, on pourrait toujours aller couper du bois dans la forêt pour se chauffer. Je me réjouis d'ailleurs de voir les habitants de New York couper du bois dans Central Park pour se chauffer cet hiver. Du coup, bam, le baril retour à 85$, et même la réunion de l'OPEP d'hier soir, qui a confirmé ses coupes de production, n'aura rien changé. Pendant ce temps, l'or est à 1842 et le bitcoin s'échange à 27 660. Côté nouvelles du jour, en ce jeudi matin, c'est l'avalanche parce qu'il y a les demandes de nouvelles hypothèques en chute libre alors que le taux à 30 ans frise les 8%. JP Morgan, enfin un des analystes de JP Morgan, pense que le carnage sur les marchés actions n'est pas terminé pour 2023. Demain, nous devrions avoir un autre analyste de JP Morgan qui dira le contraire. Bill Gross, gérant obligataire, ne toucherait pas au marché obligataire, ni au marché des actions. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas s'il s'est mis aux cartes Pokémon. Kolanovic, de JP Morgan, encore, pense que la hausse des rendements du 10 ans a le potentiel de faire effondrer à peu près toute l'économie. Cathy Stockton, de chez Fairlead, pense que le marché est survendu et que nous sommes au bord de l'explosion haussière. Mais elle n'est pas encore à 100% convaincue tant que l'on n'aura pas touché les 4150 sur le S&P 500. Jeff Gundlach pense que la récession arrive et qu'il faut attacher nos ceintures. La volatilité est au plus haut depuis 4 mois. Tesla remonte à toute vitesse après des ventes décevantes et des couvertures de short massives alors que les gars se sont fait brûler. Encore une fois, avec cette stratégie de vouloir absolument jouer la baisse sur Tesla, chose qui ne fonctionne pas. Rivian a annoncé l'émission d'une obligation convertible pour 1,5 milliard. Le titre perdait 8% after close, mais on avait gagné 9% durant la séance. Trump s'est déclaré disponible pour reprendre le poste de Speaker of the House, laissé vacant par McCarthy. Je dois dire que ce serait absolument mythique de voir ça. Et le pape François appelle à l'action pour le climat et prévient que la planète s'effondre et pourrait être proche du point de rupture. Mais alors, mais que fait son patron ? Et puis, la petite bonne nouvelle du jour, c'est depuis 2 semaines, juste 2 semaines, la dette américaine a augmenté de 444 milliards de dollars. Depuis que McCarthy et Biden ont fait péter le plafond, c'est open bar pour tout le monde. En plus, McCarthy s'est fait virer et Biden ne sait même plus en quelle année il est né et c'est la première puissance mondiale. Je sens que ça ne peut que bien se terminer tout ça. On continue avec la samba des chiffres du trimestre. Aujourd'hui, nous aurons des chiffres économiques, pardon. Aujourd'hui, nous aurons, comme tous les jeudis, droit aux jobless claims. Au-delà des chiffres de la semaine, je me réjouis déjà de voir l'interprétation qu'on va en faire. Mais il y aura aussi le trade balance aux USA et en Allemagne. Mais pour être franc, l'ensemble du monde merveilleux de la finance attend les chiffres de l'emploi de demain pour savoir de quoi l'avenir sera fait et ce que fera Powell à la fin du mois. Enfin, C'est ce que l'on va croire et ce que l'on va se dire pendant environ 5 minutes dans le meilleur des cas. C'est pourquoi qu'à la fin, afin de ne pas perdre de temps à brasser de l'air inutilement parce que ça fait des courbatures dans les bras à la fin, demain je ne serai pas là parce que je n'aurai pas encore fini ma session de PLS mensuelle. Mais je vous retrouve lundi matin pour la suite des aventures du monde merveilleux de la finance, justement, monde de la finance qui avance à tâtons. Excellente fin de semaine, merveilleux week-end et à lundi.